Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Un crâne, des vêtements éparpillés, de multiples questions qui restent en suspens. Hier, lors de sa conférence de presse, le procureur de la République n'a pas levé les doutes sur les conditions de la disparition du petit Émile Soleil. Il a reconnu que l'endroit où avaient été trouvés les ossements avait été fouillé à plusieurs reprises, alors que 800 personnes avaient participé au battu. Sur place, une centaine de gendarmes sont toujours à la recherche d'éléments qui pourraient permettre peut-être de lever les multiples hypothèses et peut-être de retrouver ce qu'on appelle le point zéro, c'est-à-dire l'endroit où a eu lieu le crime ou l'accident. Tout le monde s'en remet maintenant au travail des experts de l'Institut de recherche de la gendarmerie qui vont analyser les ossements et les vêtements retrouvés sur place. Émile, tellement de zones d'ombre, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Laurent Valdiguier, vous êtes journaliste à Marianne, vous avez coécrit avec François Vignol, Gérald Darmanin, le baron noir du président aux éditions Robert Laffont. Avec nous ce soir, Valentine Arama, vous êtes journaliste police-justice au journal Le Point. Je cite votre dernier article, « Mort d'Émile, qu'est-il arrivé au petit garçon ?» Et je rappelle votre livre, « Delphine Jubillard, une disparition » publiée aux éditions du Rocher. Avec nous ce soir, Marie-Laure Pesan, vous êtes la porte-parole de la gendarmerie nationale. Gérard Dallest-Enfin, vous êtes procureur général honoraire et auteur de « Cold Case, un magistrat enquête » aux éditions Mareuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Je vais commencer avec vous, Gérald Dallest.
Pour Jacques.
Vous...
Jacques.
Pourquoi j'ai Gérald ? Voilà, Jacques. Jacques. Donc je vais tout de suite corriger, pardonnez-moi. Jacques Dallest, pour vous poser cette première question. On a entendu le procureur hier. C'est très rare, parce que depuis le début de la procédure, depuis le début de l'enquête, il ne s'était pas exprimé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il décide de prendre la parole dans ce dossier précisément ?
Alors il y a eu un premier procureur qui est intervenu au début, c'est celui de Digne. C'est le ressort sur lequel s'est passé l'événement, la disparition du petit Émile. Ensuite, le dossier a été transmis à Aix-en-Provence, qui est un pôle criminel, proprement dit. Et je pense que le procureur a attendu qu'ait lieu cette mise en situation, qui a beaucoup agité dans les médias, oui, pour parler, s'exprimer. Et sans doute aussi la découverte du crâne du petit Émile, oui, l'a incité à parler, sans doute en accord avec les juges d'instruction qui, eux, dirigent l'enquête.
Est-ce qu'il répond à la pression médiatique ?
Certainement,
ou
oui, parce qu'un procureur, je l'ai vécu, est tellement assailli de demandes qu'à un moment, il est bon qu'il s'exprime dans le cadre d'une conférence de presse, qu'il donne des arguments précis plutôt que de le répéter au téléphone multiple reprises. Là, il y avait une forte demande et ça me semble assez logique qu'il ait pris la parole.
Dernière question, est-ce qu'un procureur peut prendre la parole lorsqu'il n'a rien à dire ?
Ça arrive, mais ce n'est pas l'idéal. Il vaut mieux parler pour dire quelque chose.
Oui.
Je pense qu'il a fait, il a donné un certain nombre d'indications. Il faut surtout être économe de sa parole pour qu'elle soit sensée, qu'elle soit pertinente et qu'elle soit efficace.
Alors, Laurent Valdiguier, sur ce qui a été dit hier par le procureur, il n'a pas évidemment répondu à toutes les questions. On va en parler longuement ce soir, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qu'il a dit hier ?
Il a beaucoup parlé déjà, c'est la première fois qu'il parlait depuis 9 mois. C'est un moment important puisqu'on a retrouvé le crâne d'Émile samedi, que des premières vérifications, enquêtes et tout ça ont été faites sur le terrain pour en savoir un peu plus. Il a dit que sur la cause, il a confirmé qu'une promeneuse avait trouvé le crâne un peu par hasard sur un sentier de montagne, à 25 minutes du village. À marche d'homme, a-t-il dit. Il a un peu décrit la zone. Il a expliqué dans quelles circonstances cette promeneuse avait prélevé le crâne, l'avait mis dans un sac plastique et l'avait amené chez elle et les gendarmes étaient venus. Alors, ce qu'il n'a pas dit, c'est à quel point la gendarmerie avait été rapide pour transporter ce crâne de l'endroit à Pontoise, à l'IRCGN, avait fait dans la nuit de samedi à dimanche les prélèvements pour vérifier que c'était bien l'ADN du petit Émile. Tout ça, c'était un travail de coulisses, enfin, qui a été fait à la vitesse de l'éclair. Et puis surtout, il a dit que les autres vêtements d'Émile avaient été retrouvés à proximité dans un rayon de 150 mètres, dans un petit torrent. Il manque son short, mais enfin, il y a son t-shirt, ses chaussures et sa culotte qui ont été retrouvées. Donc là, le point zéro, comme disent les experts, c'est-à-dire l'endroit où il a trouvé la mort, qu'elle soit naturelle ou qu'il ait été déposé par la suite, est dans cette zone. Mmh. Et dans cette zone. Et il a dit aussi que les premiers examens sur le crâne, qui comportaient des traces de griffures animales et tout ça, puisqu'il avait séjourné 9 mois dans la forêt, ne permettaient pas de déterminer les causes de la mort. Autrement dit, qu'il n'est pas mort d'un traumatisme crânien. C'est la seule chose qu'on sait.
C'est pas beaucoup. Valentine Aramas, sur la prise de parole du procureur et toutes les questions auxquelles il n'a pas répondu. Si on part sur les éléments que vous donnez sur le crâne et l'étude qui a été faite de cet élément qui a été retrouvé par cette promeneuse, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on peut attendre?
Alors, il y a plusieurs éléments qui sont importants. Dans ce qui a aussi été dit par le procureur, c'est que ce crâne présentait des dépôts et plusieurs types de biotopes différents. Donc, ça veut dire qu'il a a priori séjourné longtemps à l'air libre, qu'il a été confronté et soumis aux intempéries météorologiques. Et d'autre part, il y a ces analyses sur le crâne, dont on a appris aussi qu'il y avait des fractures qui sont post-mortem et non antémortem. Ça veut dire qu'elles n'ont pas été portées avant la mort, mais après. Des fractures qui sont des fissures. Donc pas un coup porté sur le crâne avec par exemple un objet contondant. Donc on peut exclure déjà que le petit garçon est mort d'un coup porté à la tête. C'est déjà
on ferme des portes.
Et dans les éléments qui sont importants aussi, c'est de savoir que au-delà des analyses qui sont menées sur ce crâne, de celles qui sont menées aussi en ce moment sur les habits du petit Émile qui ont été transmis à l'IRCGN en région parisienne, il y a aussi des analyses sur place et elles sont très importantes. Pourquoi? Parce que des anthropologues par exemple vont étudier les sols et pouvoir nous dire si le crâne était là depuis longtemps ou non.
S'il a été déposé intentionnellement, récemment. Voilà. Ça, on pourra le savoir.
On pourra le savoir. Et tous ces éléments mis bout à bout permettront peut-être d'arriver à une hypothèse. En revanche, et je pense que c'est ce que les enquêteurs essaient de faire aujourd'hui, et la priorité, c'est de retrouver l'entièreté du squelette, parce que c'est en ayant ce corps, peut-être qu'ils n'y parviendront pas, c'est une possibilité, mais si plus ils ont d'éléments osseux, plus ils pourront se rapprocher d'une hypothèse crédible et exacte.
C'est ça la priorité là, du travail des enquêteurs sur place, retrouver l'ensemble du squelette du petit garçon.
Plus on aura effectivement d'ossements et plus on sera en mesure de faire des analyses, des études, voir s'il y a des éléments qu'on peut relever sur ces ossements qui pourraient laisser entendre qu'il y a eu un coup ou en tout cas essayer de comprendre les circonstances du décès. Donc c'est une priorité. C'est pour ça que toute la zone est refouillée et revérifiée pour essayer de trouver d'autres éléments.
C'est normal, pardon, qu'on retrouve... c'est un peu glauque comme discussion, mais allons-y, c'est normal qu'on retrouve un crâne d'un côté, les vêtements de l'autre et pas le reste du squelette?
Ça peut être dû à des changements, comme on l'a dit. Ce qui s'est passé, c'est qu'a priori le crâne laisse entendre qu'il a séjourné longtemps à l'air, dans la nature, donc il y a pu y avoir des mouvements de terrain, du vent, des pluies, le terrain a pu se modifier, les ossements ont pu bouger, on a des traces aussi de dents d'animal, donc peut-être qu'un animal a pu aussi transporter une partie des ossements. Donc tout ça pourrait expliquer le fait qu'ils ne sont pas tous retrouvés au même endroit.
Sur cet aspect-là.
Et je précise que c'est aussi très compliqué de rechercher pour ces raisons le reste du squelette, d'autant plus un squelette d'un enfant de cet âge-là. Les os sont extrêmement petits, pardon pour ces détails. Ils peuvent s'apparenter à des petites brindilles et après avoir passé peut-être 9 mois dans la nature, ils peuvent s'apparenter à des éléments naturels qu'on va retrouver dans cette zone qui est très escarpée, très accidentée, où la végétation en été est très dense, un peu moins en ce moment, en ce début de printemps. Et voilà, c'est très difficile de... Et c'est pour ça que ça peut s'éparpiller aussi.
Il y a des animaux dans la région
Bien sûr. D'abord, c'est une zone montagneuse, il y a des prédateurs. Il y a des loups, mais ça peut être aussi du petit prédateur. Ça peut être du mulot, du rat, et ça l'IRCGN va être en mesure, je pense, que le colonel pourra nous le confirmer, de dire s'il s'agit de morsures d'un gros prédateur ou d'un plus petit.
Les crânes, ça roule. Et comme les corps se décomposent bien plus vite qu'on ne le croit, quand Nordal Le Landais avait déposé le caporal noyé le long d'un taillis à un endroit où personne ne l'aurait jamais trouvé, en avril, En septembre suivant, donc ça va assez vite, son crâne s'étant détaché et ayant roulé dans la montagne, certainement poussé par des animaux qui viennent, c'est triste à dire, mais grignoter un peu, il a été retrouvé par un vététiste, pareil, exactement dans la même configuration qu'Emile l'autre jour, dans un petit chemin de montagne. Ça fait comme une rigole, comme une gouttière, un chemin de montagne. Ça l'avait bloqué. Et là, il l'a ramené aux gendarmes, pareil, exactement.
Il l'avait ramené aux gendarmes. Elle l'a ramené aux gendarmes. Elle n'aurait pas dû le faire, si ?
Bah, elle a bien fait.
Elle a bien fait ?
Enfin, le ramener, peut-être pas. Peut-être qu'il aurait mieux fallu rester sur place, appeler la gendarmerie.
Ce qui est bien, c'est que déjà, elle est ramenée et elle l'est signalée, parce qu'elle pourrait aussi ne rien avoir fait. Elle a voulu bien faire en protégeant ce crâne et en l'amenant, en le préservant, pour que les gendarmes puissent travailler et rapidement avoir des éléments de réponse. Donc, elle a bien voulu faire. Et ça, c'est ce qui est important. Oui. Après, c'est vrai que peut-être qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, si jamais vous êtes dans une situation où vous trouvez des éléments qui vous paraissent suspects sur un chemin, essayez de rester sur place et d'appeler les policiers, les gendarmes pour qu'ils puissent se transporter sur place et faire des analyses dans l'environnement dans lequel il est.
À partir du moment où elle se présente avec ce crâne, elle est suspecte. Est-ce que son récit, du coup, est vérifié immédiatement par...
Tout est vérifié. On va prendre l'ensemble des mesures. Un certain nombre d'investigations ont été menées pour vérifier la fiabilité de son témoignage, vérifier que ce qu'elle dit est vrai. Et donc, il n'y a eu aucun doute sur ses propos et sur le fait que... sur son récit, en tout cas, il y a vraiment... Tout est vérifié, bien sûr.
Jacques Dallès, elle est protégée dans un cas comme celui-ci, cette femme ?
Protégée ? Non.
Non, mais dans le sens, on ne donne pas son nom, on fait en sorte que...
Oui, je pense qu'il n'est pas utile de donner son nom. C'est vrai qu'à mon avis, elle a commis une erreur. Bon, elle a voulu bien faire, certainement. Mais c'est toujours dangereux, enfin, entre guillemets, de prendre un objet, enfin, ou un élément de corps humain, parce qu'après, on peut soupçonner quelque chose, et puis surtout, dégrader l'espace où ça s'est passé. Et c'est vrai qu'un crâne roule. C'est bien pour ça que quand on retrouve un élément d'un corps humain, on retrouve souvent le crâne. Les os peuvent se confondre avec la végétation. Le crâne, lui, il apparaît, à moins qu'il soit enterré. Et c'est ce qu'on voit, effectivement, assez souvent.
Il y a plein de questions qui restent en suspens, notamment, je cite cette phrase du procureur d'Aix-en-Provence, qui s'appelle Jean-Luc Blachon, qu'on va entendre dans un instant. Il dit « Si le lieu de la découverte du crâne d'Émile est bien situé dans le périmètre des recherches des premiers jours, je peux affirmer aujourd'hui que chaque mètre carré a été foulé par un membre de l'équipe de recherche. » Les voilà, les zones d'ombre qui restent en suspens, on va en parler dans un instant. Après le crâne d'Émile, ce sont donc les vêtements qui ont été retrouvés en contrebas par les enquêteurs, mais hier, lors de sa conférence de presse, le procureur avait quand même bien peu de réponse à donner face à la déferlante de questions des journalistes. Le mystère s'épaissit et la pression se fait de plus en plus forte sur la centaine, notamment d'enquêteurs, de gendarmes qui sont toujours mobilisés dans la zone. Mathieu Lignot, Christophe Roquet.
Le visage du petit Émile en une de la presse est toujours beaucoup de mystère. Samedi dernier, des ossements du petit garçon ont été retrouvés par une randonneuse dans l'Allier. La zone est à nouveau inspectée par les enquêteurs. Hier soir, le procureur annonce de nouvelles découvertes.
À proximité du lieu où le crâne a été découvert, un ruisseau descend la montagne. Le long de ce ruisseau, qu'on peut deviner par forte pluie devenir un torrent, ont été retrouvés par les enquêteurs hier, en contrebas du chemin, à environ 150 mètres du lieu de la découverte du crâne, certains vêtements que portait Émile le jour de sa disparition, c'est-à-dire un t-shirt, ses chaussures et une culotte.
Les gendarmes de l'IRCGN, des enquêteurs scientifiques, sont à pied d'œuvre pour tenter de trouver de nouveaux éléments. Ils utilisent notamment ces drones pour cartographier la zone en trois dimensions grâce à des capteurs.
L'objectif, c'est de fixer la scène pour la maintenir dans les meilleures conditions et pouvoir garantir le replacement des indices.
Que s'est-il passé le 8 juillet dernier ? Émile, 2 ans et demi, disparaît ici. Ses ossements sont retrouvés à près de 2 km, soit 25 minutes de marche pour un adulte. À l'époque, des centaines de gendarmes sont mobilisés. Des drones, là encore, des chiens et des bénévoles se lancent dans une immense battue à travers la montagne. Au bout de plusieurs jours de recherche, aucune piste, le mystère s'épaissit.
À l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information, d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition.
D'une disparition incompréhensible à une mort inexplicable. Le hameau du Haut-Vernet est toujours bouclé par les gendarmes. Dans le village voisin, l'émotion est immense. Ses habitants vivent depuis des mois dans cet inconnu. Ses familles ont même participé aux battues, alors cette macabre découverte laisse un goût amer.
On a beaucoup de ravins, des pentes escarpées, des ronces. La végétation en été est très fournie. Il y a beaucoup de pierres, beaucoup de ronces. On peut imaginer, par exemple, que l'enfant se soit retrouvé en cas de chute dans un trou.
Ça nous embête de ne pas l'avoir retrouvé, en fait. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, donc c'est vraiment... C'est frustrant, tout à fait frustrant.
La science continue de travailler. Dans ce laboratoire de la gendarmerie, des enquêteurs analysent la terre, les vêtements de l'enfant ou encore ses ossements. Ils n'ont pas été enterrés et les gendarmes ne trouvent aucune trace de blessure mortelle sur le crâne retrouvé.
Ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile Soleil. Entre la chute de l'enfant, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre pour expliquer la disparition puis la mort de l'enfant Émile.
Les ossements du petit Émile ont-ils été déplacés par un animal, la pluie, ou bien cachés là intentionnellement par quelqu'un ? Encore une fois, aucune piste n'est privilégiée par les enquêteurs.
Et on va revenir sur ces multiples zones d'ombre. Catherine, en Côte d'Or, est-il possible qu'un enfant de 2 ans et demi ait pu parcourir cette distance dans une zone aussi escarpée ?
Oui, tout est possible. D'abord, c'est un enfant.
Vous êtes allé sur place.
C'est un enfant qui était habitué depuis son plus jeune âge. Il était déjà très jeune, oui. Mais à faire des randonnées avec sa famille, je veux dire, il était aguerri à la marche, visiblement. Mmh. Donc, on peut imaginer, il est en train de jouer, il se déplace, et puis à un moment, un enfant, d'abord, ça marche peut-être pas tout droit. C'est pour ça d'ailleurs que les chiens pisteurs marquent sa piste à un endroit, puis plus à un autre. Peut-être qu'il zigzague, puis peut-être qu'à un moment, il tombe. C'est des suppositions, mais c'est possible qu'il se soit déplacé à pied sur une longue distance.
Bon, cette phrase du maire, du Vernet, qui dit « Je suis quand même surpris que ce soit dans une zone autant ratissée ». Tout le monde se pose cette question, Laurent Valdiguier. Il disparaît à peu près aux alentours de 17h. 45 minutes ensuite, les autorités locales, les gendarmes sont prévenus. Il ne peut pas partir à 25 minutes de... Enfin, vous voyez, c'est très difficile d'imaginer. D'ailleurs, on entendait les témoignages des bénévoles. Ils disaient « Mais on est passé dans cette zone-là ».
Ben oui, les parents commencent à s'inquiéter à 17h30. Et ils appellent les gendarmes trois quarts d'heure plus tard, et les gendarmes sont là très vite. Et puis les gens du village sont là très vite. Mmh. En réalité, s'il est allé se perdre à cet endroit-là, après il peut y avoir de multiples autres hypothèses, mais si, et c'est quand même l'hypothèse la plus vraisemblable ce soir avec les éléments dont on dispose, c'est que Émile, il est remonté de la première fontaine où il est allé, là dans le centre du village, il est repassé devant chez ses grands-parents, et puis là il a vraisemblablement voulu aller à la cabane où il avait joué le matin, qui est juste en haut à droite de la maison de ses grands-parents. Ouais. Et puis au lieu d'aller à droite, s'il s'est perdu, il va à gauche. Et il fait 2 kilomètres à gauche, en pleine forêt.
Mais ils sont allés voir à la cabane.
Alors à la cabane, ils sont allés voir, il n'y était pas. Ouais. Les recherches, elles se sont concentrées, on le comprend, on aurait fait la même chose. Elles se sont concentrées autour du village, parce que personne n'a pu imaginer d'entrée de jeu qu'il était allé très vite, au fond, assez vite, à 2 kilomètres, en pleine nature. Mais c'est vrai que tous ceux qui se sont perdus en montagne, tous les adultes qui se sont perdus, qui ont connu le phénomène de la désorientation, ils disent tous, a fortiori quand ils sont adultes, on fait un peu n'importe quoi quand on est perdu. Le temps ne compte plus pareil, on panique. Et c'est tout à fait possible qu'un enfant de 2 ans et demi, alors il était bien chaussé, un enfant de 2 ans et demi se soit au fond et persisté dans son erreur. C'est tout à... et
d'ailleurs, il se perd. Des fouilles, des ratissages, des bénévoles, des chiens, des caméras thermiques. Mais comment est-il possible que cette zone-là, au fond, qu'on ne le retrouve pas au moment où on cherche?
Le procureur a quand même mentionné un ruisseau qui d'ailleurs peut devenir torrentiel avec les intempéries. Si le petit garçon tombe en juillet, donc il n'y a pas encore de torrent dans ce ruisseau et qu'il est mouillé, les chiens pisteurs, l'eau, ça brouille leur odorat. Les caméras thermiques, elles ne détectent plus de halo de chaleur. Donc il faut se rendre compte aussi de ce qui a pu se passer. C'est des hypothèses, bien sûr, mais malgré tous les moyens techniques déployés, il se peut qu'il n'ait pas été identifié à l'endroit où il était, tout simplement parce qu'il était dans un ravin trop profond, dans un cours d'eau, et que tout ça a perturbé les recherches.
On sait aujourd'hui qu'il n'était pas dans un ravin très profond, puisqu'on a retrouvé son crâne aux côtés d'un...
Oui, mais ça a pu être déplacé.
On a retrouvé une partie. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas encore certain que le corps était sur cette zone-là. Le fameux point zéro dont on parle, on ne l'a toujours pas identifié.
Il y a ses vêtements.
Il y a ses vêtements, mais qui sont quand même éparpillés sur plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres. Donc,
pardon de vous poser la question comme ça, mais avec le recul, est-ce que quand on refait le film de ces heures-là, de ces premières journées-là, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de faille dans la manière dont les recherches ont été conduites, tout ce qui pouvait être fait a été fait.
On a engagé, quand vous voyez à l'époque, en une heure, on avait 40 gendarmes mobilisés, on a eu tout de suite des moyens aériens, on a eu des chiens qui étaient présents sur place. On a eu ensuite beaucoup de gendarmes, au plus fort 80 gendarmes, en plus les battues citoyennes, 200 à 300 personnes qui étaient avec nous pour faire les recherches. Donc on a eu énormément de moyens déployés. Après, comme vous le disiez tout à l'heure, on est sur un territoire, un terrain qui est difficile. Il faut se replacer aussi en été. On a 30 degrés, on a une végétation extrêmement dense. Donc il y a beaucoup de choses qui rendent les recherches plus complexes.
Mais le procureur lui-même le dit, je peux affirmer aujourd'hui que chaque mètre carré a été foulé par un membre de l'équipe de recherche. C'est-à-dire que cet endroit-là a été...
C'est absolument irréaliste de penser que même une battue extrêmement serrée va examiner chaque centimètre carré, surtout en zone de montagne. On est à 1200 mètres d'altitude avec des ravins, des bosses, des creux, des points hauts. Donc avoir la prétention d'avoir tout vu, ce n'est pas possible, parce que vous avez des zones où il faut y aller en rappel, etc.
C'est pourtant ce qu'on nous a dit. C'est pourtant ce qu'on laissait entendre. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais c'est ce qu'on nous disait à l'époque. Il ne peut pas être là puisqu'on a passé la zone au peigne fin.
Mais je crois qu'il ne faut jamais être péremptoire. Ça, c'est l'erreur de penser. On a retrouvé il y a quelques jours le corps d'une femme qui avait disparu au mois de décembre dans mon département en Haute-Savoie. On la cherchait, une randonneuse, elle a perdu la vie. C'est pas si facile de retrouver un corps, a fortiori un petit corps, qui a peut-être roulé dans un ravin. Et donc, dire qu'on a tout examiné, à mon avis, c'est une erreur de l'annoncer. Évidemment, ça jette un peu le trouble dans les esprits en disant, mais apparemment, est-ce possible donc? Ben si. Quand ça se passe en montagne, on ne peut pas tout voir, même avec des drones. Et surtout un corps qui très vite va être couvert de feuilles, avec des résidus de végétaux, etc., ça le rend presque indétectable.
Si c'est ça, vous avez raison. Si Émile a pris tout seul la direction de l'endroit ou de la zone où on l'a retrouvé et s'est perdu tout seul à cet endroit-là, si c'est cette hypothèse, c'est vrai que c'est à minima un concours de malchance. Ouais. D'abord que les chiens n'aient pas trouvé sa piste, parce que les chiens ils s'arrêtent à la fontaine. Que les chiens n'aient pas trouvé sa piste en direction de la forêt. Quand on parle depuis trois jours à des maîtres chiens, ils sont tous très étonnés.
Oui, c'est ça.
Alors c'est vrai qu'il faisait chaud, c'est pas la meilleure période pour les chiens, mais qu'ils disent tous, les maîtres chiens, qu'un chien ne l'ait pas trouvé, c'est possible, c'est toujours possible, que plusieurs chiens l'aient raté, c'est quand même bizarre. Qu'ensuite, dans un second temps, les chiens n'aient pas trouvé l'endroit où il était pendant plusieurs jours. Les gendarmes, ils étaient là jusqu'au jeudi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Que pendant plusieurs jours, aucun chien de les trouver, alors ça c'est aussi de la malchance. Et bien alors ensuite, il y a une décision qui a été prise, qui pour le coup n'était pas la bonne, de ne pas envoyer les chiens sur ce secteur de recherche de cadavres. Vous savez, c'est d'autres chiens qui sont spécialisés dans la recherche de cadavres.
Ceux qui sont aujourd'hui
bon,
sur place.
Mais ça c'est aussi parce que la gendarmerie pensait légitimement, elle a raison de penser ça, puisque les fouilles avaient été faites, parce que la gendarmerie pensait qu'ils ne pouvaient pas être dans cette zone. Vous savez, c'est un grand rectangle, la zone en question, c'est délimité par une route et un torrent, c'est un très grand rectangle, imaginez de fois. Le village est d'une extrémité du rectangle, l'endroit où il est retrouvé est à l'autre extrémité. C'est la grande diagonale de ce fameux rectangle. Et dans cette zone, dans ce dernier carré au fond du rectangle, la gendarmerie a estimé que, compte tenu des moyens utilisés, tout ça, finalement, on pouvait faire l'économie d'envoyer des chiens à cet endroit-là. Ça, c'est une erreur. Ouais, ça, c'est une erreur parce que.
L'économie.
Il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis.
De temps ou de moyens.
Non, mais après, les gendarmes travaillent de manière méthodique et en fait, il y a des hypothèses. On peut pas. Les chiens ont un temps de travail aussi.
Voilà.
Donc, il faut qu'on puisse travailler de manière ciblée. Et il faut pas oublier que les chiens ne sont pas l'alpha et l'oméga.
Alors,
les chiens sont un moyen en plus d'autres pour pouvoir identifier des pistes.
Oui.
Les chiens de recherche de cadavres n'ont pas été envoyés sur cette zone pour des raisons qui sont sûrement des raisons légitimes, mais c'est vrai que s'ils avaient été envoyés au mois d'août sur cette zone, on peut imaginer avant la fonte des neiges, avant les neiges de l'hiver, qu'il aurait été retrouvé et qu'aujourd'hui on n'en saurait plus, il était vraisemblablement mort. Encore une fois, je mets 1000 conditionnels.
Ouais, bien sûr,
c'est dans l'hypothèse où il est parti de lui-même. Hein.
Ouais,
mais si dans l'hypothèse où il est parti de lui-même et qu'il avait été retrouvé par des chiens pisteurs et recherche de cadavres, on en saurait beaucoup plus aujourd'hui parce que là c'est un travail de bénédictin, de romain, de fourmi, de tout ce que vous voulez pour essayer de reconstituer tout le squelette du petit garçon.
Peut-être qui est composé.
Peut-être n'était-il pas là. Voilà.
C'est ça.
Ah, c'est vrai que là.
C'est pour ça qu'il faut rester très prudent sur les conjectures, parce que peut-être qu'il n'y était pas, peut-être qu'au mois d'août, il n'y avait rien sur cette zone.
Et que le corps a été déposé ensuite, c'est une hypothèse sur laquelle vous travaillez.
C'est une hypothèse qui sont travaillées, bien sûr. Il était certain, mais ou pas, on ne sait pas.
C'est ce qu'a laissé entendre le procureur. Il y a ce dépôt sur ce
crâne. Il a laissé entendre que les ossements ont séjourné longtemps dans la nature. Sur 9 mois,
longtemps, ça peut être 3 mois.
Ça peut être 3 mois, ça peut être 4. En fait, je pense qu'il faut rester quand même très très mesuré sur l'analyse. On a tous, tout le monde voudrait avoir une interprétation, tout le monde voudrait connaître la vérité. Nous les premiers, parce qu'on la doit aux parents et c'est important qu'on la trouve. Mais il faut ne pas faire de conclusions trop hâtives. Toutes les hypothèses, c'est pour ça que toutes les hypothèses continuent d'être
étudiées. Elles restent ouvertes, y compris celle d'un crime, y compris celle
on a l'accident.
Le corps soit déposé ensuite, bien sûr.
L'homicide involontaire, le meurtre, tout est encore étudié parce qu'on n'a pas encore pu fermer de manière certaine chacune de ces hypothèses.
Cette question d'Alain, est-il au moins possible de déterminer la date de la mort du petit Émile?
Ça va être très, très difficile.
Très difficile.
Précisément, parce que ce qu'on appelle le délai post-mortem, le délai entre la découverte des os et le décès, là, il sera difficile. Je crains, moi, que quoi qu'on fasse dans ce dossier, on reste sur une énigme, qu'on n'arrive pas à résoudre.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que je ne suis pas sûr que même si on découvre le reste du corps, on ait des éléments suffisants pour nous permettre de déterminer les causes du décès. On ne saura pas si ce sont des causes naturelles, accidentelles, criminelles. Voilà. Après,
la mise en situation n'a rien donné. Il n'y a pas eu de communication du procureur sur la mise en situation.
Il se peut que des éléments soient tus par la justice pour des raisons de stratégie d'instruction. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus surestimer les apports que les sciences vont amener. Ce sera sans doute utile, mais sans forcément une solution
absolue.
C'est
vrai qu'il y a eu une conjonction de faits, de moments dans cette enquête, avec cette mise en situation où on a quand même entendu l'ensemble de la famille, l'ensemble des personnes qui étaient sur place à ce moment-là, des témoins. Et le crâne a ensuite été découvert, donc il n'y a pas eu de leçons qui ont été tirées, en tout cas publiquement, de cette mise en situation.
Le procureur, en tout cas hier, a été très clair et il a précisé qu'il n'y avait à ce stade
aucun lien
entre la mise en situation du 28 mars et la découverte des ossements. Alors, peut-être que c'est une stratégie, je ne sais pas, mais en tout cas, il l'a quand même affirmé assez clairement et ça peut être tout simplement aussi une coïncidence. Hein,
Il peut y avoir, vous parliez de stratégie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la façon dont on peut procéder à un moment donné pour continuer à mener une enquête?
Il ne faut pas tout dire, publiquement.
D'accord.
Ça, surtout si on est sur une piste de l'intervention humaine, un homicide ou autre chose, il ne faut pas tout dire. Les témoins, c'est une chose, ils ont dit ce qu'ils souhaitaient dire. Après, il y a aussi tout le travail qui est fait par les enquêteurs, justement, pour aller peut-être plus loin. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on ignore à ce stade, et je crois qu'il ne faut pas absolument les connaître. Au jour d'aujourd'hui, de toute façon, on ne peut que spéculer, comme on le fait tous. Voilà. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus, encore une fois, surestimer ce qu'on pourra savoir dans ce dossier. Enfin, je crois qu'il faut rester. C'est
en tout cas, on voit bien qu'il y a une... je ne sais pas si vous appelez ça une pression médiatique ou une pression de l'opinion. En tout cas, cette affaire-là, comme d'autres disparitions, touche particulièrement les Français. Et ça veut dire qu'il va y avoir une pression sur les enquêteurs pour aller au bout de ce dossier, malgré tout.
Il y a une pression qui va durer, sans doute, bien sûr, et qui va se poursuivre très, très longtemps.
Mais Jacques Dallès, il est pessimiste parce qu'il connaît très bien l'affaire Maëlys. Il a requis contre Nordal Le Landais.
Ouais.
La petite Maëlys, elle est morte fin août. Ouais. Elle a été retrouvée, elle a passé tout un hiver, pareil, à l'air libre. Elle a été retrouvée fin février. 6-8 mois.
Ouais.
Le squelette était entier. On a même retrouvé des cheveux qui avaient été découpés par le Landais avant de partir parce qu'il a emporté des mèches. Donc le squelette était parfaitement entier. Pareil, totalement décomposé. Le Landais a cette particularité de laisser ses deux victimes à l'air libre parce que ça se décompose beaucoup plus vite.
D'accord.
Mais de fait, on n'a pas su déterminer les causes de la mort.
Non.
On a su qu'elle avait été blessée, qu'elle avait eu un coup non mortel à la mâchoire, ce qui a permis à le Landais d'expliquer qu'effectivement, il lui avait mis un coup. Mais on n'a jamais su les causes de la mort. Et pourtant, le squelette était entier. Maëlys, elle était plus âgée que le petit Émile. Et on avait la scène, pour le coup, on avait la scène zéro de dépose du corps, parce qu'elle n'avait pas beaucoup bougé.
Donc, il n'y a que les parties molles difficile. Du corps, malheureusement, qui disparaissent, qui peuvent révéler ce qui s'est passé.
Alors, pourquoi mettre autant d'énergie pour retrouver ce qu'il reste du corps de
cet enfant.
Il faut justement avoir le maximum d'informations possibles pour justement essayer d'avoir des réponses.
Qu'est-ce qu'on peut trouver sur les vêtements ?
Alors, sur les vêtements, on peut trouver des traces. Là, au niveau des experts de la gendarmerie, ils peuvent trouver s'il y a eu peut-être un contact avec d'autres objets, d'autres
vêtements. On peut retrouver des traces d'ADN. Ça supporte 9 mois à l'extérieur,
c'est possible.
On peut. Oui, on peut. De toute façon, tous ces éléments, ces vêtements sont analysés pour voir si on trouve. Il peut y avoir des éléments biologiques, mais il peut y avoir aussi des éléments d'autres tissus qui auraient pu toucher ces tissus.
Des fibres.
Des fibres. Il peut y avoir beaucoup d'informations et même aussi au niveau de la terre. On parlait du biotope tout à l'heure. On peut avoir aussi des éléments qui peuvent permettre, si on trouve une essence d'arbre qu'on ne trouve pas sur ce terrain-là, peut-être ça peut nous orienter sur un autre secteur, et surtout si ça a séjourné longtemps dans la nature. Donc on peut avoir des informations.
D'accord, Laurent Vatiguet.
On pourrait avoir aussi des éléments de biologique d'Émile, sur son t-shirt notamment, qui nous dirait à quel endroit où il a saigné.
Ouais,
à quel endroit il a été blessé ? À quel endroit sur son short ? Si on retrouve son short.
Faudrait voir l'état des vêtements, mais les animaux rongent vite, détruisent plus la nature, détruisent le textile. Mais il peut y avoir des éléments. Faudra regarder la culotte aussi du petit.
Ouais.
Ça peut être quelque chose d'intéressant.
Et les chaussures ?
Les chaussures, dont je pense, comme pour Maëlys, qu'elles ont été rongées par les animaux. Oui. Il y a du cuir, ce genre de choses, qui peuvent révéler, effectivement. Et ce n'est pas toujours simple de distinguer l'intervention humaine de l'intervention naturelle sur des traces, des coupures, des déchirures. Ce n'est pas si simple, sauf s'il y a des traces de sang qui seraient encore conservées ou autre chose.
Mm-hmm.
C'est ce que les experts vont dire. Hein,
Effectivement, les enquêteurs maintenant attendent que la police scientifique fasse parler les éléments trouvés sur place. Et c'est tout un pays abreuvé de scénarios, d'enquêtes policières bien huilées qui attend maintenant des réponses claires, nettes. Mais entre la fiction et la réalité, il y a un gouffre. Car dans les séries, il y a toujours un coupable. Juliette Perrault et Juliette Vallon et Emmanuel Bach ont mis des policiers devant la télé. Regardez.
C'est un générique iconique. Les experts, une référence dans l'histoire des séries policières. 15 saisons, 337 épisodes, diffusés pendant 15 ans à travers 150 pays dans le monde. Un genre devenu populaire qui continue encore aujourd'hui d'inspirer la création française.
Une fois, il est resté pendant plus de 16 heures face au type avant qu'il se mette à parler.
Des séries qui plongent les téléspectateurs au cœur des enquêtes, au plus près du travail des policiers.
C'est la procédure.
Tout ce qu'on veut, c'est la vérité.
Mais la fiction est-elle toujours fidèle à la réalité ?
Qu'est-ce qui lui est arrivé d'après vous ?
Vous êtes en train de m'accuser de meurtre ?
Vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre.
Nous sommes allés poser la question aux premiers intéressés. Yann Bastière a été enquêteur pendant 20 ans dans la police nationale. Son avis est plutôt tranché.
Très peu de ces séries sont crédibles. La facilité de résoudre l'affaire, d'entendre les gens comme on le veut, de se déplacer, de pas beaucoup écrire. On voit pas beaucoup les enquêteurs dans les séries écrire. C'est notre quotidien. C'est notre quotidien. L'ordinateur, c'est notre meilleur ami dans une enquête.
Parmi les rares séries qui emportent l'adhésion de la profession, Engrenage. Une fiction qui décrit les arcanes de la justice française à travers le travail quotidien de policiers et magistrats. Thierry Godard y incarne un des personnages principaux, un policier membre de la direction de la police judiciaire. Un rôle de composition qu'il a travaillé avec des professionnels.
Des belles rencontres avec des policiers sur une philosophie qu'ils avaient de leur métier, parce qu'ils étaient très présents, et après des choses plus concrètes comme comment faire une, une perquisition, une arrestation, des procédures, des voilà. Et eux étaient un peu la caution de la véracité de la série.
Frank Martins fait partie de ces conseillers de l'ombre. Retraité de la police judiciaire, il est consultant pour la série HPI. Une fiction qui raconte l'histoire d'une femme de ménage extravagante, recrutée par la police pour son intelligence exceptionnelle.
Mais c'est quoi ce cirque Morgane ?
Oui, c'est un désinfectant pour surface super puissant. Ben, je m'en souviens, c'est ce qu'on utilisait dans les EHPAD. Ah ben, avec les vieux, faut pas déconner. Dans mon souvenir, le truc est super inflammable. Ah ben oui, regardez.
Il fallait que par rapport au personnage d'Audrey Fleurot, enfin de Morgane Alvaro dans la série, qui est vraiment fantasque, etc., qui est haut en couleur, il fallait justement que le volet policier, c'est-à-dire que l'alter ego de Morgane Alvaro soit un flic crédible, entre guillemets. Donc moi j'avais à cœur, et il avait à cœur, et tout le monde avait à cœur de crédibiliser le côté polar de la série.
Un réalisme qui passe aussi par la complexité de certaines intrigues. Dans cette série inspirée de l'affaire du violeur de la Sambre, chaque épisode est centré sur une figure clé. La victime, la juge, une scientifique ou encore un policier.
On voulait sortir du polar classique, c'est-à-dire on a des enquêteurs qui cherchent à attraper un prédateur, un violeur, et qui donne toujours une vision assez binaire et assez réductrice de ce genre d'histoire. Enfin, ça montre que à tous les niveaux de la société, voilà, tout le monde se sent concerné.
Une série qui se conclut, comme souvent, par l'arrestation du coupable. Yann Bastière y voit là aussi un écart flagrant avec la réalité du travail des policiers.
Ça va trop vite dans la preuve. Dans la preuve, ça va trop vite. Là, nous avons actuellement une actualité brûlante qui est le petit Émile. On voit tout le temps long que ça va demander, les traces et indices, les recherches, la criminologie qui va derrière. Dans toutes ces séries, ben, c'est souvent 52 minutes ou une heure et demie, ben, il faut que tout aille très très vite. Et très très bizarrement, ça va une vitesse folle, et les enquêteurs recueillent des indices, recueillent des témoignages. Là, pour nous, c'est totalement incongru, c'est totalement fantaisiste.
Des enquêtes romancées qui donnent parfois une vision faussée du métier. Malgré le succès des séries, la police aujourd'hui manque d'enquêteurs et a du mal à recruter.
Et pour les fans de HPI, la saison 4 commence le 16 mai sur TF1. Votre réaction à ce reportage les uns les autres, est-ce que c'est pour ça qu'on est si exigeant dans l'affaire Émile comme dans d'autres dossiers ?
Probablement, on attend à ce que les choses aillent très vite, et on ne voit pas toujours le temps long, les investigations minutieuses. On a l'impression aussi parfois que le technique peut tout, que le scientifique peut tout, mais en fait, une enquête, c'est beaucoup plus complexe.
C'est 1696 signalements traités, plus 11 en cours. Je parle de l'affaire Émile. 157 auditions effectuées, 500 prélèvements expertisés, 1000 lignes téléphoniques exploitées. C'est ça aussi, ouais. Une enquête au quotidien dans un dossier comme celui-ci. Vous vouliez ajouter un mot sur ce reportage ?
Non, mais ça illustre bien la réalité des choses. Alors, on comprend bien qu'une fiction ne peut pas être un documentaire. Il faut une intrigue. Mais il ne faut pas non plus induire les téléspectateurs en erreur en pensant qu'effectivement, la sagacité, mais comme ça, mais c'est bien sûr. Non, il y a ce travail, puis il y a des impasses. Hein, et ça donne des cold cases, malheureusement. Voilà, ça fait partie de la réalité. Digué.
Mais l'effet divers, c'est bien plus que tout ça. C'est ce qui fait qu'on fait famille. On partage. C'est quoi une famille ? C'est on partage des émotions, des drames, des chagrins. Eh bien, on fait famille. On a tous en commun le petit Grégory. On a tous en commun Estelle Mouzin, qu'on a vu des milliers de fois, dont on connaît le visage. Et puis là, depuis un an, on vit avec le petit Émile. Ouais, c'est notre famille.
Comme on a vécu avec Maëlys pendant de nombreux mois aussi.
Et comme on a vécu avec Maëlys. Et c'est pour ça qu'on est attaché à toutes ces histoires, ces histoires nous traversent.
Effectivement, dans toutes ces séries et dans le quotidien de la gendarmerie, de la police, il y a la science. Est-ce que dans ce cas précis, on a entendu, après avoir trouvé le crâne, on va modéliser en 3D la zone ?
Ça, oui.
À quoi ça sert ?
Ah, après. Alors c'est très très important. Alors ça, c'est vrai qu'on le voit beaucoup dans les fictions parce que c'est quelque chose qui est très très visuel. On a une machine technique qui va faire en trois dimensions l'ensemble de la scène, mais c'est une réalité et c'est très intéressant et très important de le faire parce que ça va permettre, pardon, de fixer une scène. Donc là, vous allez avoir un drone. Enfin, il y a eu un drone qui est passé, qui a modélisé l'ensemble de la scène. L'objectif, c'est finalement de fixer cette scène et de pouvoir y revenir plus tard. On va avoir, on appelle ça un double numérique de la scène. On va pouvoir, sur les images, positionner la zone de découverte du crâne, des vêtements, de tous les éléments importants pour l'enquête. Et ça permet de la figer. Pourquoi ?
C'est mieux que sur une carte ?
C'est mieux que sur une carte, bien sûr, puisque en fait on vit tous beaucoup dans la réalité virtuelle aussi en ce moment. Mais là, finalement, c'est une deuxième réalité virtuelle dans laquelle on peut revenir, on peut voir ce qui s'est passé, et on évite d'avoir une dégradation des lieux qui va arriver parce que demain il va peut-être pleuvoir et donc du coup la scène va se modifier. Ça permet du coup aussi à distance et dans la durée de revenir autant de fois que c'est nécessaire dans cette scène.
C'est comme si en fait les enquêteurs emportaient ce petit de montagne, le ramener à Pontoise où se trouve l'IRCGN et pouvait du coup le présenter pour ce petit morceau de montagne, pas si petit, au juge, au magistrat instructeur, aux enquêteurs s'ils ont besoin d'y revenir. Et en effet, ça permet d'avoir cette carte 3D et de se positionner. Alors, j'imagine que c'est jamais aussi efficace que quand on est sur place et qu'on peut trouver, mais en tout cas, ça permet d'y revenir le temps long.
C'est souvent très très intéressant et utile aussi pour l'enquête en elle-même, et notamment quand vous êtes face à une enquête qui passe devant les assises, parce que vous pouvez finalement, c'est comme une sorte de reconstitution du site, et quand vous avez affaire à un meurtre, vous avez tous les éléments, les traces de sang, les indices qui ont été prélevés sur place, et ça permet quand même d'avoir une bonne vision de ce qui a pu se passer.
Laurent Valtiquet ?
Oui, alors c'est vrai que quand on parle des séries, moi je suis plutôt de la génération Columbo. Mmh. Et Columbo, il n'y a pas encore
flair.
D'ADN.
Est-ce que ça existe toujours ?
Il n'y a pas un ordinateur, alors rien de tout ça.
Il y avait mais, non, c'est non. Aussi.
Mais c'est vrai.
Mais c'est important ce qu'il dit, parce que j'avais cette question qui était, est-ce qu'il y a la science, mais est-ce qu'il y a le flair ? Est-ce qu'il y a des enquêteurs dont on se dit, on ne comprend rien, on va le chercher, oui ?
Il ne faut pas que la science occulte tout le reste. L'illusion que la science va tout résoudre. Non, au contraire, il y a un travail d'enquête très humain, de déduction, d'analyse, d'interprétation, qui sera toujours nécessaire et fondamentale. Si on se repose uniquement sur la science, c'est une forme de paresse intellectuelle, et la science ne peut pas...
Mais par le passé, sur certaines affaires, certains enquêteurs qui ont une conception de ce qui a pu se passer enferment dans certaines hypothèses.
Effet tunnel, toujours dangereux, il faut encore une fois ne pas... Parce que l'enquêteur sera peut-être muté, et d'autres vont reprendre le dossier. Un dossier qui dure des années... Et ça, c'est important qu'il y ait une mémoire du dossier qui soit la plus objective possible, qu'elle puisse être transmise au repreneur de ces dossiers.
Dans le cas d'Émile, il y a une personne...
Et au juré, éventuellement, en fin de parcours, évidemment.
Dans le cas d'Émile, par exemple, si on se projette sur ce dossier-là en particulier, ça veut dire qu'il y a une personne à la gendarmerie qui est en charge de ce dossier et qui, à un moment donné, le transmettra s'il n'est pas clos ?
Alors, il y a une cellule nationale d'enquête qui a été mise en place avec une vingtaine d'enquêteurs qui travaillent sur ce dossier et qui, justement, s'entourent. Alors, nous, la gendarmerie, on a un système où en fait on a l'enquêteur, l'unité d'origine qui est saisie, et ensuite des compétences qui viennent s'ajouter. Donc en fait, cette cellule travaille avec les enquêteurs, des spécialistes, les experts de l'IRCGN, tout le monde travaille ensemble pour justement que le dossier soit le plus complet possible.
Alors il y a quand même un tournant après Columbo, c'est 87, l'ADN. Parce que c'est vrai que l'ADN, ça a quand même tout changé.
87, il y a eu des choses depuis
95,
quand même.
Même, parce que
non, c'est les Anglais qui inventent l'ADN. C'est rigolo, l'invention de l'ADN, parce que c'est des commissaires anglais, ils ont deux meurtres et deux viols. Ils sont persuadés que c'est la même personne, ils en ont arrêté une qui a avoué un des deux. Alors, ils appellent un chercheur qui vient d'inventer l'ADN en lui disant si votre truc marche, dites-nous que c'est lui le deuxième, il en a avoué un des deux. Donc le chercheur, il fait le premier ADN dans l'histoire criminelle, et il dit aux enquêteurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous avez raison, c'est le même violeur. En revanche, ce n'est pas du tout celui qui a avoué. C'est un autre. Et ils ont arrêté l'autre grâce à ça. Donc, vous voyez, l'ADN, à la fois, ça avait...
Ça fait 87.
87.
Qu'est-ce qu'on a depuis ? Quels sont les outils dont vous disposez depuis qui aident le travail de l'enquêteur, si encore une fois on se réfère à ce dossier? Est-ce que des disciplines comme la psychocriminologie sont utilisées dans ce dossier, Émile? Est-ce que ça peut être utile
alors, ça peut
dans ce dossier?
Pas forcément dans ce dossier, mais on a des psychocriminologues à la gendarmerie avec le département d'analyse comportementale, où on a des enquêteurs qui sont à la fois officiers de police judiciaire, donc ont tous les pouvoirs pour enquêter, et qui sont psychocriminologues et qui sont en capacité de pouvoir appuyer les unités de terrain qui sont face à des dossiers, des affaires complexes, qui vont à la fois définir en se déplaçant sur les lieux des profils des auteurs, et qui vont aussi accompagner dans le cadre de la garde à vue pour que les auditions puissent être faites de manière la plus stratégique possible en fonction de la personnalité de la personne mise en cause.
Là, il n'y a pas eu de garde à vue dans ce dossier?
Non.
C'est un classique
arriver.
Dans une affaire comme celle-ci?
Dans une affaire de disparition, bien sûr, ça ne préjuge pas de ce qui peut arriver.
Il peut y avoir
une garde à vue d'une personne qui serait, pour qu'il y ait une garde à vue en l'espèce, il faudrait qu'elle soit impliquée dans une action ayant abouti au décès du petit Émile.
Alors, on ne le sait pas toujours avant la garde à vue.
Oui, mais il faut des éléments.
Oui,
il faut
des indices,
des raisons plausibles de soupçonner que la personne a pu commettre l'infraction. C'est ce que dit la loi. Donc des raisons plausibles, c'est assez vague. Il faut un minimum d'éléments qui permettent peut-être d'incriminer une personne. On ne met pas en garde à vue sans raison.
La garde à vue, c'est quand même une mesure de privation de liberté. Donc généralement, il y a en effet des éléments qui font qu'on va placer cette personne pour 24 heures, voire 48 heures, qui est le maximum.
J'ai découvert en préparant cette émission qu'il y avait une science forensique. Oui. Qui réunit des méthodes d'analyse de la police scientifique, de la médecine légale et de la criminologie.
En fait, c'est tout l'objet des experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. On a les sciences forensiques, c'est un terme assez générique, où on a plusieurs types d'expertises qui interviennent justement pour analyser des indices, tout ce qui peut être saisi sur une scène de crime. Donc on a effectivement 50 spécialités à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, par exemple.
Mais avec des outils nouveaux, l'intelligence artificielle qui va brasser tous les éléments de l'affaire Émile.
Alors on n'est pas comme dans les experts où on met tout dans un fichier et la réponse sort en 10 minutes, mais on a beaucoup d'éléments qui nous permettent de faire du recoupement. Par exemple, l'analyse ADN a beaucoup évolué. Maintenant, on travaille sur l'analyse ADN mitochondriale, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a plusieurs dizaines d'années en arrière. Donc, il y a des évolutions et on utilise l'IA aussi pour faire le traitement en masse des données.
Il y a l'IA et puis il y a les médiums. Dans la presse étrangère, dans le Sun, je vois que vous levez les yeux au ciel, Jacques Dallès, dans le Sun, il y a un médium qui travaille à la CIA et pour l'Army Psychic Intelligence Unit aux États-Unis, qui a envoyé un mail à la presse en disant, regardez, moi j'avais dit exactement où était le corps, bien sûr, dites-vous. Donc voilà, il y a aussi ces disciplines-là.
Non,
qui ne sont jamais prises au sérieux.
Il faut. Non, oui, ça peut être pris au sérieux. Moi, je l'avais dit au procès Maïli, je ne comprends pas qu'on puisse s'intéresser aux médiums, sauf ceux qui habiteraient dans le village. On ne sait jamais. Non, on reste dans du rationnel et du sérieux et du scientifique. Les médiums, c'est de l'irrationnel et du fantaisiste. C'est tout. Donc, on n'a jamais vu un médium permettre d'élucider une affaire criminelle ou une disparition. C'est complètement faux.
En revanche, je précise, et c'est problématique pour les gendarmes parfois ou les policiers, que quand les médiums font une théorie et les mettent et la transmettent, les gendarmes ou les policiers sont obligés de fermer cette porte. Donc parfois, ça leur rajoute du travail et ça peut polluer.
Parce qu'on donne du crédit.
Certains se substituent à l'enquête. Des journalistes enquêteurs qui se substituent à l'enquête.
Ou des médias qui peuvent polluer l'enquête.
Il faut tout prendre au sérieux parce que justement, il ne faut pas se permettre de passer à côté. Mais c'est vrai que parfois, ça peut rajouter des éléments complémentaires.
Vous savez, la petite Maïlys, on l'a vue aux quatre coins de la France, alors qu'elle était morte dans l'heure qui a suivi son enlèvement.
Pas une seule enquête judiciaire n'a jamais été résolue grâce à un média.
Ce serait trop beau.
Juste, je voudrais vous montrer cet extrait. Peut-être l'avez-vous vu. On parlait des séries. Le ministère de l'Intérieur utilise des codes des séries pour lancer des appels à témoins sur des affaires en cours cette semaine. Regardez, ça concerne une affaire du violeur au couteau. Regardez.
L'attention du pôle a été appelée sur une affaire particulière, trois viols successifs, espacés dans le temps, commis en 2002-2011, où nous retrouvons le même ADN avec le même mode opératoire, c'est-à-dire trois victimes, trois femmes, agressées dans des lieux publics, à plusieurs moments de la journée, 8h, 10h et midi, le tout sous la menace d'un couteau. Et c'est dans ce cadre que nous lançons un appel à témoins.
Les deux premiers faits ont été rapprochés rapidement.
par rapport au mode opératoire de l'auteur et la proximité des faits. Une centaine de kilomètres entre Gujan-Mestras et Saint-Paul-les-Dax.
À l'époque des faits, l'individu est décrit comme une personne âgée de 30-40 ans, de petite taille, 1m60 à 1m70, de corpulence moyenne.
La police a besoin de vos témoignages pour identifier et traduire cette personne devant la justice.
Là, c'est un appel à témoins où on a mis les moyens.
Oui, on a mis les moyens. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, il y avait des émissions qui avaient été mises en place, ouais, justement pour faire un appel à témoins. Et on peut recueillir des indices supplémentaires ou des témoignages supplémentaires qu'on n'avait pas eus. Donc, c'est important de pouvoir continuer à faire appel à la mémoire de certains et de trouver tous les éléments qui peuvent nous permettre peut-être d'avoir un nouvel indice pour une affaire.
Le témoignage, c'est souvent le point de départ du travail des enquêteurs. Récupérer les témoignages. 157 auditions ont été effectuées, je le disais, dans la disparition d'Émile. Et parfois, derrière les témoins se cachent les meurtriers qui se mettent en scène dans les médias et font même du zèle auprès des enquêteurs dans l'affaire Équivillon. Le mensonge a duré 81 jours. La sœur de la victime nous raconte. Aubry Perrault, Claire Blondiot et Marion de Vauchel.
Puis on était chez nos grands-parents, on cueillait des gros bouquets de lilas, il y avait beaucoup de lilas à la fraise. Puis on avait fait des photos ensemble. On était heureuses, quoi.
Elle n'avait qu'une sœur, Karine Esquivillon, dont la France a découvert le visage l'année dernière. En juin 2023, Adélaïde apprend sa mort après des semaines d'attente et de mensonges. Il y a un an, jour pour jour, Michel Pial signale la disparition de sa femme. Cette mère de 5 enfants aurait quitté le domicile familial précipitamment une semaine auparavant et sans explication.
Ça me paraît complètement insensé, ça lui correspond pas. Je me dis, mais partie où ? Après, rapidement, je me dis, elle va m'appeler, elle va... Mais non, je sais pas, ça me semble, il y a quelque chose de lourd qui m'envahit, de vraiment, je sais pas, quelque chose qui vous laisse à terre.
Des semaines durant, son mari reçoit des journalistes et lance des appels à son épouse pour qu'elle revienne chez eux.
On ne la jugera pas du tout. C'est pas le but. Voilà, le but, c'est d'avoir des nouvelles. Si elle veut refaire sa vie, qu'elle nous le dise.
À l'époque, Adélaïde ne supporte pas cette exposition médiatique.
Sa bouche, ses rictus, je trouve ça tellement faux. Je lui dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, son cinéma? Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est douloureux. Moi, je sens que ma sœur, ça va pas, quoi. Et lui, il l'a fait passer pour quelqu'un de léger, d'inconscient, de libère-nous émotionnellement. Mais sachant ce qu'il a fait, ce qu'il lui a fait, mais quelle horreur.
Adélaïde n'échangera que rarement avec lui. Par téléphone.
Il commence à me parler d'elle comme quelqu'un que je connaissais pas. C'est-à-dire une femme complètement désinvestie. Alors Karine était une femme très aux petits soins pour son intérieur. Et il me dit même, il va même jusqu'à me dire qu'il y avait tellement de poussière qu'il a dû vider plusieurs fois le sac de l'aspirateur. Et là, ça paraît fou, c'est un détail qui a son importance. C'est pas possible.
2 mois et demi plus tard, les révélations arrivent finalement. Alors qu'il est en garde à vue, dans les toutes dernières minutes, Michel Pial craque. Il avoue avoir tiré accidentellement sur sa femme avec un fusil de chasse. Le corps de Karine Esquivillon est retrouvé dans un bois, à une dizaine de kilomètres de leur maison.
Je suis accablée, je suis pas soulagée, bien sûr, mais en même temps, je suis soulagée de savoir qu'il est... qu'il est tenu à l'écart des enfants et que, voilà, il est dans l'ombre, là.
Pourquoi Michel Pial n'a-t-il pas appelé les secours? Et pourquoi organiser une telle mise en scène? L'homme est aujourd'hui décrit comme un affabulateur et un mythomane par certains proches. Il a également un casier judiciaire condamné pour des faits d'escroquerie à plusieurs reprises. Un personnage bien mystérieux, décrit Adélaïde.
Ils habitaient à une bonne demi-heure. Sur ce qu'il faisait, c'était toujours très trouble. Il a été architecte, il était dans les services secrets. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui, quand même... Voilà, son passé, on ne sait pas vraiment. Ses premiers enfants qu'il ne voyait plus.
Accident, meurtre ou assassinat, Adélaïde Esquivillon n'espère plus rien de la part de son ancien beau-frère.
Ce que j'attends, c'est qu'il soit puni lourdement. Voilà. Parce que nous, on prend perpète, là. Hein. C'est clair. Hein. C'est une sœur, c'est... C'est une sœur, quoi. C'est... Elle vous tient la main, elle vous touche le cœur et... Puis là, elle n'est plus là, quoi. Là, c'est pour toujours, quoi.
Et les avocats de Michel Pial ne souhaitent faire aucun commentaire, mais confirment qu'il n'a pas été entendu depuis cet été. L'instruction suit toujours son cours.
Votre réaction à ce reportage, quand on voit ce témoignage de la sœur de Karine Esquivillon, on se dit, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête pour se mettre en scène à ce moment-là, convoquer même la presse?
Alors, il est présumé innocent, comme vous le savez, puisqu'il n'est pas jugé, mais dans les histoires...
Il est passé aux aveux, mais ça ne fait pas de lui un...
Non, parce qu'il n'est pas encore jugé. Donc, dans ces histoires familiales, il ne faut jamais s'arrêter aux apparences, aux dénégations, à la représentation qu'on a des protagonistes. Il faut creuser tout ça. On a vu des gens qui juraient la tête sur le bio qu'ils n'avaient rien à voir avec une affaire, et malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc là aussi, c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas en rester aux aveux de la personne, qu'on n'a pas toujours. Retrouver le corps de la victime, ça c'est fondamental, on ne l'a pas toujours non plus. Voilà, et maintenant, ce sera les jurés de la cour d'assises, vraisemblablement, qui auront à se pencher sur le sort de ce monsieur.
Comment font les policiers pour inciter un suspect à passer aux aveux ?
Il y a plusieurs méthodes, notamment dans celle-ci, ça rejoint d'autres, enfin ça ressemble à d'autres affaires, notamment celle de l'affaire Daval. Alors lui, il a été jugé, condamné. L'affaire Jubilard aussi, où il y a un certain temps qui est pris avant d'aller confondre les individus, de les placer en garde à vue et de les mettre en examen, enfin que le juge d'instruction les mette en examen. Pourquoi ? Tout simplement pour peut-être les observer, pouvoir avoir des déclarations qu'ensuite ils vont pouvoir confronter à la personne gardée à vue et lui dire, ben voilà, c'est contradictoire. Cet élément dans l'emploi du temps, il ne va pas. Donc c'est une stratégie, j'imagine.
c'est déjà un aveu, c'est pas... Justement, le dossier, les investigations, ne se contente pas d'avoir des auditions ou des témoignages. En fait, c'est important d'avoir un ensemble d'indices, un faisceau d'indices, comme on dit, et d'aller étudier effectivement les humains, les paroles, mais aussi les éléments scientifiques, la téléphonie, la vidéo. En fait, c'est tout ça qui va constituer un dossier et qui ensuite va nous amener à identifier quelqu'un qui pourrait être mis en cause et ensuite à interroger.
Oui.
Et quand on y arrive, souvent on a beaucoup d'éléments.
Quand vous dites l'interroger, c'est la garde à vue. Je reviens toujours à l'affaire Émile et à l'idée que dans cette affaire-là, alors c'est un petit hameau, il y avait la famille qui était sur place, mais il n'y a pas eu de garde à vue.
Mais la garde à vue n'est pas systématique, c'est pas... il peut y avoir différents types d'auditions, différents statuts. Et donc, la garde à vue, on peut avoir le statut de témoin assisté, on peut avoir une audition. Ça arrive finalement à la fin.
À la fin.
Et donc, pour l'instant, ce qui est important dans l'ensemble des dossiers, c'est toujours d'étudier tous les éléments techniques, scientifiques, tous les éléments qu'on peut recueillir. Et une fois que, généralement, on a pas mal d'éléments et qu'on a identifié un mise en cause, c'est là qu'on va arriver à la garde à vue. Et la garde à vue, c'est un peu la fin du dossier.
C'est pas parce qu'on ne sait rien, nous, qu'ils n'ont rien, les enquêteurs,
sur ce dossier-là
en particulier. Hein. Il faut peut-être se le redire.
Mais oui, tout n'est pas sur la place publique.
Voilà.
Et c'est une bonne chose. Il y a la confidentialité, il y a des actes à venir qu'il faut garder les plus secrets possibles. Il y a des stratégies, il peut y avoir des écoutes téléphoniques, ce genre de choses, qui à un moment vont peut-être se converger vers un suspect. C'est là qu'un jour ou l'autre, peut-être une garde à vue sera mise en place.
L'affaire Pial, c'est le cas d'école de l'affaire parfaitement réussie par la gendarmerie. Il a tué sa femme. Il est allé l'enterrer, donc il pense qu'on la retrouvera jamais. Et en plus, pendant toute une période, il joue avec le téléphone de sa femme, faisant croire que sa femme visite la dune du Pi, là, envoie des messages. Alors ça, donc il y a tout le volet numérique de la gendarmerie qui étudie tout son comportement, tous ses allées-venues, se rend compte que la nuit, il sort. Enfin, il y a tout un tas de trucs suspects, mais il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas le corps. Ils le mettent en garde à vue avec plein d'éléments, mais des petits éléments, des petits cailloux blancs, ils n'ont toujours pas d'aveu. Et alors là, ça se joue à l'ancienne. 48 heures de garde à vue. Ils ont tous leurs éléments, mais il leur faut quand même avancer. Ne serait-ce pas pour qu'il avoue, mais pour qu'il leur dise où est le corps. Il ne tient, il craque pas une seconde. 48 heures de garde à vue, c'est fini. Il renvoie l'avocat chez lui, parce que l'avocat a assisté à tout ça. Il a nié les évidences, il a nié les choses. Et puis il y avait dans la salle d'à côté deux gendarmes d'analystes comportementaux qui ont assisté à la garde à vue dans la pièce d'à côté d'une télévision.
ça leur donne du recul sur ce qui s'est passé par rapport à leurs deux collègues qui l'ont cuisiné, Michel Piat, pendant deux jours. Ils ont vu des choses, ça c'est le secret de l'enquête, je l'ignore, je ne sais pas comment ça s'est passé. Toujours est-il que l'avocat qui vient de rentrer à son hôtel est rappelé, Michel Pial, au bout de tout ça, après une petite discussion informelle qui n'a pas duré longtemps avec cette équipe de gendarmes, il avoue qu'il a tué sa femme. Ouais. Et non seulement il avoue, mais tout le monde va se transporter dans la forêt, on va retrouver le corps de sa femme. Mmh. Et l'affaire, elle est finie. Alors, il est présumé innocent parce qu'il n'est pas encore jugé. Mais ça s'est joué, il y a tout dans cette histoire. Mmh. Il y a les analyses techniques, il y a le téléphone, il y a le gars qui a trop regardé de séries et qui s'imagine qu'il va tromper les enquêteurs, donc qui a échafaudé un scénario. Et au bout du bout, le travail de la garde à vue, c'est-à-dire du face-à-face d'enquêteurs et de suspects.
C'est peut-être pour ça qu'on parle aussi, on va cuisiner un suspect, c'est un peu dans notre terminologie, parce que en fait, pendant un certain temps, on va faire mijoter, on va donner un petit peu, on va redonner un petit peu plus tard, et puis dans le temps...
Quand vous dites
qu'on
va redonner, ça veut dire quoi?
On va lui poser un certain nombre de questions, puis dans le temps, on sait qu'on a pas mal d'éléments, donc on va l'interroger sur les éléments, et dans la durée, on va voir s'il y a des incohérences, ça va peut-être le faire réfléchir aussi, et petit à petit, on va peut-être arriver à des aveux, même si, comme on le disait, les aveux, on n'en a pas toujours, et ça n'empêche pas de conduire les
Est-ce que, juste, pardonnez-moi, je reviens à l'affaire Émile, mais est-ce que justement la découverte des vêtements, du corps, une partie du corps, du crâne, etc., fait qu'à un moment donné, ça ouvre une autre séquence de l'enquête, que ça peut réveiller des choses? Est-ce que là, il y a une forme de vigilance supplémentaire qui peut être mise en action? Non,
ça, au contraire, ça complexifie le dossier, parce qu'il faut, ça ouvre de nouvelles pistes. C'est le corridor avec des portes qu'on ferme, qu'on ouvre, et derrière une porte ouverte, il y en a une autre derrière.
Oui, pour l'instant, elles sont quand même toutes ouvertes, les portes.
À chaque avancée, et à un moment, elles seront peut-être fermées ou jamais fermées.
Ça s'appelle un labyrinthe.
On revient à vos questions. Bruno, dans le Val-de-Marne, comment une jogueuse peut-elle découvrir par hasard ce que la gendarmerie et une armée de bénévoles n'ont pas découvert?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les aléas météorologiques, les intempéries ont peut-être déplacé certaines choses, certains éléments osseux, et c'est la raison pour laquelle un chemin que cette randonneuse avait l'habitude d'emprunter, qu'elle avait d'ailleurs emprunté quelques semaines auparavant,
où elle n'avait rien vu,
là, à ce moment-là, elle voit ça, peut-être aussi qu'elle est plus alerte ce jour-là, qu'elle regarde plus autour d'elle, ça on ne sait pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont pu être déplacées. Preuve en est que les habits ne sont pas retrouvés au même endroit que le crâne. C'est bien la preuve que des choses et des éléments ont bougé.
Alain, Seine-Saint-Denis, est-on sûr de l'endroit où la randonneuse a trouvé le crâne du petit Émile?
Alors ça relève du secret de l'enquête, mais un certain nombre de vérifications sont faites et le procureur l'a dit que c'était vraiment... son témoignage
était précis. Vincent, Moselle, la thèse d'une mise en scène postérieure à la mort de l'enfant est-elle écartée?
Il ne faut rien écarter, bien
sûr.
Donc
cette thèse-là, non, n'est pas écartée.
Même si elle paraît improbable, mais il ne faut pas l'écarter définitivement.
En quoi la découverte des autres ossements pourrait faire progresser l'enquête?
Sur les causes de la mort, notamment.
Ouais.
S'il y a des fractures qui ne sont pas liées à un animal ou à un déplacement dans la montagne. Mmh.
Concrètement, quel est le rôle des anthropologues dans cette enquête?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, étudier les sols.
On a deux types de rôles. Le rôle d'abord de l'analyse des ossements, puisqu'ils vont permettre de savoir est-ce que c'est les ossements d'un enfant, est-ce qu'il y a des traces de coups, est-ce que c'est des traces de morsures. Tout ça, c'est les anthropologues qui ont pu définir les altérations et expliquer ce qu'il y avait sur ces ossements. Et ensuite, il y a un deuxième temps, un travail sur le terrain pour pouvoir étudier les sols, pour pouvoir comprendre si ces ossements étaient présents depuis longtemps sur ce territoire et étudier l'environnement dans lequel ils étaient présents.
Par exemple, s'ils ont été déposés là plus tard, on le saura.
Oui, on saura surtout s'ils étaient là depuis longtemps, puisque quand, ne pas rentrer dans des détails sordides, mais quand un corps est sur un terrain, le temps de se décomposer, il laisse des traces dans le sol qui peuvent être identifiées par un anthropologue.
Claudius, en Meurthe-et-Moselle, est-il vraiment possible que les chiens n'aient pas détecté le corps lorsqu'ils ont ratissé la zone où a été découvert le crâne?
Ça, c'est ce qui plaide pour l'autre thèse, qu'il ne soit pas l'accident, mais qu'il soit une dépose a posteriori, parce que c'est vrai que si c'est un accident, c'est la malchance des chiens, que les chiens n'aient pas suivi sa piste et ne l'aient pas trouvé dans les trois jours dans ce périmètre.
Avec la précision toutefois que lors de la deuxième phase d'enquête technique qui est entre le 23 et le 25 juillet, les chiens ne repassent pas par là. Donc ça explique aussi pourquoi ils ne l'ont pas senti, ils n'y étaient tout simplement pas.
Des animaux sauvages ont-ils pu déplacer le corps ou tout au moins les ossements?
Oui,
ça fait partie des choses qui sont possibles. Quelle analyse?
On est sur une faune de montagne, avec beaucoup de prédateurs de toutes sortes et qui sont en quête, malheureusement, de nourriture, si je puis dire.
Quelles analyses sont réalisées sur les vêtements? Que peuvent-elles apprendre aux enquêteurs?
Alors c'est ce qu'on disait, des analyses ADN, des analyses sur les fibres qu'on pourrait trouver qui ne sont pas celles des vêtements, le biotope, tous les éléments naturels aussi qui s'y trouvent pour essayer de...
On saura quand ça ? Ça peut prendre du temps.
Ça peut prendre du temps. C'est des analyses. Parfois, il y a des réactions chimiques. Il y a des délais scientifiques qui sont difficiles à compresser, mais ça peut prendre un peu de temps.
Un peu de temps, c'est quelques mois, juste pour savoir.
Ça peut être quelques semaines, quelques mois. C'est très complexe.
La science est une aide précieuse pour les enquêteurs, mais peut-elle remplacer le flair policier ?
Non,
les deux sont complètes.
C'est un complément.
Qu'est-ce qui pourrait permettre de déterminer avec certitude la cause du décès ?
Malheureusement,
ce sera difficile. Merci à vous tous. On se retrouve demain à 17h30. N'oubliez pas, ils sont déjà en train de discuter. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver C'est dans l'heure quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.